Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. I'm going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your hand.
Bonjour, Maëva Borin, comportementaliste canin. Bienvenue dans une nouvelle émission, Un chien est un chien sur CFM. Un rendez-vous tous les lundis à 12h30 et rediffusé à 21h30 le soir. Cette émission qui est consacrée à la relation homme animal, le chien lui-même, ses comportements, son éducation et puis plein d'autres petites infos pratiques et actus canines. Aujourd'hui, ce qui vous attend, c'est tout simplement la deuxième partie de l'émission de la semaine dernière sur l'apparition de l'apparition du métier de comportementaliste éducateur et l'origine de la relation homme-animal. Il y a effectivement bien un lien. On avait terminé ensemble sur deux exemples que je vous avais donnés sur la considération du chien. Notamment par exemple au temps des rois qui était nourri à la viande et pendant que le peuple était nourri au pain. L'exemple est dur mais réel. et ou encore celui où au Royaume-Uni au 19e siècle, le chien était un vrai symbole de statut social pour certaines classes de population et l'apparition des concours canins de beauté. Je souhaitais revenir là-dessus. Si on observe bien en fait dans le monde, pour moi, il y a autant de chiens qu'il n'y a de culture. Et il y a autant de culture que de considération du chien. C'est, je parlerai essentiellement des chiens occidentaux. En tout cas, j'ai envie de dire, j'aime pas trop ce terme-là, mais dans les pays développés. Tout simplement parce que l'autre catégorie de chiens, si on peut dire ça comme ça, c'est ce qu'on appelle les chiens libres ou les chiens commensaux, qui n'ont pas de propriétaires humains, j'ai envie de dire ça comme ça. Ils vivent simplement auprès de l'homme, avec les hommes, mais n'ont pas de foyer comme vos chiens actuellement. Donc cette différence-là, elle a son origine, tout simplement, déjà, un, la notion de culture dont je vous parlais juste avant. Et surtout, moi, ce que j'observe, c'est que, et pour avoir questionné en fait certaines personnes, notamment en covoiturage où j'ai eu tout type de personnes dans mon véhicule, et notamment un Malien, et puis je crois que c'était un Congolais, et je lui demandais quelle était la place du chien, en fait. Par rapport à ça, même j'ai eu des amis qui étaient d'origine musulmane, et j'essayais de comprendre, en fait, de pourquoi le chien n'était pas considéré pareil, et surtout, en fonction des croyances et cultures, qu'est-ce qui les amène à considérer le chien autrement. Et en fait, je leur demandais s'ils rencontraient des problème de comportement, ils me disent non, très peu, au pire les chiens nous suivent. Et je me souviens de ce Malien qui était adorable et qui avait une vie assez incroyable. Il me disait, moi souvent, mon grand-père avait une ferme du coup au Mali, et il avait souvent un chien qui le suivait. Il n'avait pas forcément de relation avec, mais ce chien le suivait pendant plus d'une heure et il allait au troupeau avec, il restait là à attendre et c'était tout. Et au pire, peut-être les seuls problèmes de comportement qu'ils ont pu observer, c'est tout simplement des conflits entre chiens, mais liés à des ressources alimentaires, et c'est tout. Et puis, il y a d'autres études qui ont été faites aussi sur ce type de chien, et les comportements ne sont strictement pas les mêmes, alors strictement pas. Il y a des comportements identiques, mais qui ne sont pas les mêmes avec le chien qu'on a dans nos foyers, et surtout ceux auxquels on a affaire, nous, en tant que comportementalistes ou éducateurs canins. Donc je trouve que ça vient, moi ça soulève une grosse question, c'est pourquoi une telle différence? Donc on va revenir, j'aime bien revenir à l'origine des choses, bon en même temps je serais pas comportementaliste sinon, toujours aller chercher le pourquoi du comment et revenir au point de départ, des fois ça permet de mieux comprendre ce qu'on vit dans l'instant T. Au niveau depuis quand le chien est avec nous, eh bien si vous commencez à creuser la question, entre les livres qu'on trouve, entre les articles qu'on voit sur Internet, entre les conférences, entre les personnes avec qui vous discutez, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, dater l'exactitude depuis quand le chien est avec nous, ça devient compliqué. Je vais vous donner par exemple des exemples de ce que j'ai trouvé comme info. Alors moi, en tant qu'enseignante, parce que j'étais enseignante dans un lycée agricole sur un bac pro élevage canin félin, et j'avais la partie chien. moi, ce que j'ai transmis à mes élèves, et c'est ce qu'on m'a transmis, et c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de bouquins, c'est que le chien est avec nous depuis 15 000 ans avant présent. Avant présent, où on dit en anglais tout simplement « before present ». Ce « before present » 1950 a été établi pour éviter toute connotation religieuse liée, comme on disait, avant Jésus-Christ. Ça, j'ai envie de dire, c'est la date assez classique qu'on trouve. Dans d'autres bouquins, on nous dit qu'il est là depuis 100 000 ans avec nous. D'autres, depuis 12 000 ans. D'autres, entre 20 et 40 000 ans. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et en fait, c'est tout simplement une question de mode de datation qui va donner aussi cette variabilité-là. Bon, en soi, on se dit, est-ce que réellement c'est important de savoir s'il est avec nous depuis 20, 30 ou 100 000 ans ou 1 million d'années? Moi, ce que j'ai surtout envie de retenir, c'est qu'il est avec nous depuis le paléolithique. Le paléolithique, c'est tout simplement le tout début de l'homme. C'est là où apparaissent les premiers hommes, apparaissent les premiers outils. C'est quand même pas rien, et c'est surtout là où on voit apparaître le premier animal domestiqué, qui est le chien. Et au néolithique, les autres animaux apparaissent, comme le mouton notamment, qui a été un des premiers animaux d'élevage domestiqués. C'est pour moi pas rien, et de se dire que le chien est vraiment depuis très très longtemps avec nous. Du coup, ça m'amène à transitionner sur les hypothèses de la domestication. C'est pareil, même là, il y a des variabilités dans les hypothèses. D'abord, la première qui est, on va dire, celle qui est la plus retenue parmi tous les scientifiques, éthologues, généticiens, archéologues, naturalistes, bref, il y a plein d'étiquettes quant à tous ces métiers-là, mais on va tous au même endroit, c'est depuis quand le chien est auprès de l'homme. Bah, il y a d'abord un apprivoisement mutuel dans cette première hypothèse où ils imaginent que l'homme et le chien se sont rapprochés grâce à un intérêt commun qui est celui de l'alimentation. Tout simplement parce que le loup a compris que près des hommes, il pouvait avoir des restes de nourriture, et l'homme a compris que les techniques de chasse des loups à cette époque-là étaient bien plus perfectionnées que les leurs, et ils pouvaient du coup plus facilement avoir de la nourriture si, admettons, ils avaient les chiens auprès d'eux. Encore une fois, là, c'est très conscientisé et très, c'est un discours qui est avec d'autres capacités cognitives que ces personnes-là à l'époque. Et donc voilà, la deuxième hypothèse, elle est parmi d'autres, que l'homme, à cette époque-là, aurait capturé des louveteaux au sein des tanières pour ensuite les élever. Les hypothèses vont jusqu'à se dire que les femmes, à l'époque, allaitaient les louveteaux pour pouvoir les sociabiliser aux hommes. Maintenant, la question, et puis après la captivité, etc., tout le processus de domestication qu'on connaît si bien, les scientifiques aujourd'hui remettent quand même en question cette hypothèse-là, bien qu'elle puisse être... on doit la prendre en compte. Mais est-ce que les hommes, à cette époque-là, avaient les capacités cognitives suffisantes pour raisonner de « je vais chercher un louveteau dans une tanière, je le garde avec moi sur le camp en captivité et ça va me permettre de le domestiquer ». Beaucoup de scientifiques mettent cette hypothèse-là quand même de côté, parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de définir est-ce que les capacités cognitives étaient suffisantes pour ce raisonnement-là. Petit à petit, donc ça c'est pour les hypothèses mises en avant sur la domestication, de comment ça s'est passé. Donc voilà, ça a amené beaucoup de choses que je vous partage juste après la petite pause.
Jeté dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Suis-je pour toi le sage ou le têtu? Celui qui t'aime en tout cas te l'ai, je dis, le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus.
Yeah. présent passé, le futur un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond du fleuve, des forêts, des villes, les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline, du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche mais j'avance, vers des jours plus heureux. Je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter.
Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais laver. Congo,
yeah, Congo.
Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais laver. Congo.
Joigne Maëva Borin, comportementaliste canin. J'anime cette émission Un chien est un chien, tous les lundis à 12h30 sur CFM. Juste avant cette petite pause musicale, j'expliquais tout simplement les différentes hypothèses de domestication. Et puis, je voulais revenir sur une chose qui pour moi est essentielle. Aujourd'hui, il y a un bel amalgame entre le chien et le loup. Il est important de comprendre que nos loups d'aujourd'hui ne sont pas l'ancêtre du chien. C'est vraiment essentiel de retenir ça pour justement éviter les mauvaises interprétations. Il faut vous imaginer, pour ceux qui sont visuels, vous imaginez un loup unique, un gros loup gris. Et de ce loup gris, il y a eu deux branches qui se sont faites. Nos loups gris actuels, donc on va dire avec les hypothèses, en tout cas tout ce qui ressort des recherches scientifiques, ce serait ceux qui étaient les moins dociles qui sont restés sauvages et les plus dociles qui se sont rapprochés des hommes, donc deuxième branche, eux sont devenus nos chiens domestiques d'aujourd'hui, avec le temps et beaucoup beaucoup de générations. Et de génétique par la même occasion. Ça fera l'office d'un autre sujet. Qu'a amené la domestication ? Ben, elle a amené beaucoup de choses, surtout en termes de modification. Je vous partage une petite phrase d'une BD de Gary Larson, qui est un dessinateur et créateur de BD relativement connu, où dans une de ses BD, il y a une, vous imaginez en fait une image avec trois loups cachés derrière un arbre et qui regardent un de leurs congénères dans un camp d'humains, et l'un d'eux dit: d'accord, c'est Bob, mais regarde son regard absent, ce stupide sourire sur son visage. Je te dis qu'il a été domestiqué. Je la trouve très drôle et finalement, elle est très représentative de nos chiens d'aujourd'hui. En effet, la domestication, donc, comme je vous disais, elle a amené des modifications. Elle a amené beaucoup, beaucoup de modifications, tant au niveau des codes de communication, ça, on l'abordera sur une autre émission, mais aussi physiquement, au niveau comportemental. Et les études là, actuelles, ces dernières années, nous montrent que quand le chien est en interaction avec l'humain, des parties du cerveau s'activent, chose qui n'existait pas au préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des rares animaux sur cette planète en capacité d'interagir avec l'animal par le biais du regard. En fait, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va aller chercher ce regard pour interagir avec l'homme. Chose que vous n'aurez pas nécessairement avec un lion ou un tigre, en tout cas pour ceux qui sont restés sauvages, bien évidemment. Donc c'est dire à quel point les modifications ont été assez conséquentes avec la domestication et vous dire mais comment c'est possible que de telles modifications aient, ont pu se créer chez le loup, parce qu'on repart bien quand même d'un loup, principe, d'un loup à la base. Il y a une expérience russe qui a été faite dans les années 50 sur des renards argentés, qui le concept était d'enfermer en fait ces renards en cage. Alors bon, au niveau de l'éthique, on n'en parlera pas, c'est encore un autre sujet, mais bien qu'il y ait plein d'expériences qui n'étaient pas très éthiques, elles nous ont malheureusement ou heureusement permis de comprendre beaucoup de choses, donc bon, il faut savoir faire la part des choses aussi. Non pas que je cautionne l'enfermement d'animaux, pardon, dans une cage toute leur vie sans avoir en tout cas en n'ayant même pas la possibilité de pouvoir se reposer dans un certain confort, si on peut dire ça. Donc voilà. En tout cas, cette expérience russe, alors elle a été remise en cause là il y a quelques temps parce que ce serait déjà ce processus de domestication, d'observation de domestication, aurait été fait sur des renards déjà en processus de domestication. Mais mine de rien, je trouve qu'elle est à prendre en compte, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en l'espace de 6 générations, donc ils ont sélectionné les plus dociles, en faisant reproduire les plus dociles entre eux, et ça a amené des modifications de couleur, des oreilles tombantes, des vocalises qui sont apparues, également tous les comportements juvéniles qu'on a chez nos chiens. En fait, même un chien de 11 ans peut se retrouver à jouer, comme le ferait un louveteau, en tout cas des jeunes loups entre eux. Donc, ce processus-là de domestication, il a vraiment, vraiment maintenu des comportements qui nous permettent de... Alors, le terme manipuler, il est adapté sans l'être, dans le sens, en tout cas, de pouvoir interagir avec nos chiens comme on le fait aujourd'hui. Et c'est loin d'être fini, et surtout qu'on creusera encore plus cette question de l'impact de la génétique et de ce que fait l'homme en termes de reproduction aujourd'hui. Donc, en parallèle de ces évolutions, il y a eu petit à petit une introduction du chien dans les foyers, avec une évolution de l'utilité. Donc, quand je dis une évolution de l'utilité, si on revient à ce que je disais sur la première partie, sur les hypothèses de domestication, en fait, le chien n'avait que deux rôles principaux, c'était la chasse, déjà rôle initial, et petit à petit la garde des camps, c'est-à-dire qu'il prévenait quand un intrus apparaissait autour des camps. Petit à petit, le monde évolue, l'humain se rend compte que par le biais de cette mixité des races, enfin en tout cas des migrations mixité, etc., on commence à peaufiner les utilités par la chasse. Le troupeau qui commence à apparaître, ensuite on va lui donner aussi des rôles en guerre, des rôles de traction, que ce soit de la traction du lait, et puis petit à petit, d'année en année, de décennie en décennie, l'homme trouve de plus en plus d'utilité aux chiens, comme du sauvetage. Ensuite, on commence à voir apparaître de la médiation, c'est-à-dire qu'on utilise des animaux au cœur des EHPAD, au cœur des écoles, au cœur de centres d'enfants autistes, au cœur de centres psychiatriques, où on se rend compte que l'effet de l'animal a des effets très positifs. La détection aussi, donc quand je parle de détection, on est sur la notion de recherche, mais l'animal est en capacité de détecter billets, armes, drogues, maladies. Ensuite, je passe pas les concours de beauté, ça c'était déjà il y a déjà bien longtemps, mais en tout cas ça en fait partie. Puis on continue avec de l'agilité, de l'obérythmée. Alors l'obérythmée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement ceux qui dansent avec leur chien. Pareil, la discipline du frisbee, du canicross, du traîneau, de l'obéissance. Enfin, les activités avec nos chiens aujourd'hui sont indénombrables, tellement il y en a. Des nouveaux termes qui à la mode sont le mane trailing et le nose work, ou encore recherche RU, recherche utilitaire. En fait, j'ai envie de dire, c'est simplement de la recherche, pistage ou quête pour les termes à l'ancienne. Mais aujourd'hui, il faut des termes à la mode. Je suis désolée, je suis un peu... je m'excuse, mais j'ai pas envie de m'excuser. C'est que pour moi, c'est d'un non-sens d'inventer des termes de choses qui existent déjà depuis déjà bien longtemps et d'en faire une mode. Et deux, moi, je fais du mane trailing avec mon chien. Oui, en fait, tu fais de la recherche, quoi. De la recherche d'objets, comme on fait déjà depuis bien longtemps. Donc, c'est juste dire que nous, humains, on a inventé des multitudes et des multitudes d'activités avec nos chiens. C'est une évolution comme une autre. Comment c'est possible ? Bah, tout simplement, c'est que le besoin de l'humain change et évolue en même temps que les sociétés. On a eu l'ère industrielle où on a de plus en plus de connaissances et on évolue. Aujourd'hui, on est à l'iPhone, je ne sais même plus combien. Moi-même, j'en suis restée au 7, pendant que d'autres sont, je crois, au 22. Donc voilà, en tout cas, c'est dire que les races ont évolué en même temps que les besoins. Sauf que tout ça, toutes ces évolutions dont je vous parle, elles ne sont pas sans conséquences. Pour moi, il y a des conséquences qui sont graves, telles que, pour moi, le chien est devenu un objet de consommation. Combien j'entends, moi, quand les enfants dans la rue, ah, ce chien, il est beau, je veux ce chien plus tard. C'est pas, ce chien me plaît, il est intéressant de par ce que je suis capable de partager avec. C'est non, juste parce qu'il est beau, donc on prend un chien. On en arrive à des élevages désastreux. Je pense que toutes les associations et connues ou que ce soit de la petite ou grande sauront nous dire à quel point ils récupèrent des chiens dans des états pitoyables. Ça a des conséquences sur la santé, toutes ces évolutions-là, parce qu'on travaille aussi sur la génétique, donc ça c'est un autre sujet qu'on abordera. Les comportements, les tonnes d'abandon, en 2019, pendant la période Covid, post-Covid, il faut savoir qu'on a eu quand même une augmentation de 19% d'abandon suite au Covid. Moi je trouve ça dramatique. Vraiment dramatique. Et ce sont nos chiens qui en pâtissent et non pas l'humain. Je préfère j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est grave. Des problématiques comportementales, j'en parle même pas. Et ça fera sujet ça fera justement le sujet d'une autre émission plus tard sur les conséquences du Covid au niveau comportemental pour nous en tant que professionnels. Que ce soit de la pension, comportementaliste, éducateur, bref, je passerai tous les métiers du monde animalier. Et tout ça, c'est en constante augmentation, pardon. Et ça me ramène, moi, aux chiens dits libres, qui, eux, ne subissent pas tout ça et n'ont pas tous les problèmes qu'on rencontre, nous, en tant qu'humains, dans nos pays occidentaux. Donc, pour moi, tout ce que je vous aborde là, c'est une grande importance aujourd'hui de redonner une juste place à nos chiens, d'où le chien est un chien. Voilà, c'était Un chien est un chien. Je vous retrouve tous les lundis à 12h30 ainsi que le soir à 21h30. Vous pouvez réécouter ce podcast sur cfmradio.fr ainsi que sur mon site internet, sur l'onglet podcast et ma page professionnelle Facebook sur laquelle vous aurez des liens. C'était Un chien est un chien. Je vous dis à la semaine prochaine.
CFM. CFM Villefranche.